Chapitre 18e, dernier chapitre. Explosion inattendue et merveilleuse de la dévotion au cœur de Jésus au milieu des malheurs de la France. Seconde partie de la mission confiée à la bienheureuse marche à son accomplissement, 1870-1874. L'arche sainte est muette et ne rend plus d'oracle. Et quel temps fut jamais plus fertile en miracles? Auras-tu donc toujours des yeux pour ne pas voir, peuple ingrat? Racine dans Athalie. Si la première partie de la mission confiée à la bienheureuse était finie, il n'en était pas de même de la seconde. La parole dite pour le pape et pour l'Église avait été entendue et réalisée. La parole dite pour le roi et pour la France avait été méprisée. Ni Louis XIV, ni Louis XV n'avait daigné s'en occuper, et le gémissement de Louis XVI, captif, s'était perdu dans les blasphèmes de la Révolution. Aussi, tandis que l'Église, en France, s'épanouissait au XIXe siècle, sous les doux et chauds rayons du Sacré-Cœur, et produisait sans relâche et sans fatigue les fruits les plus savoureux de la foi, de la charité, de la pureté, de l'apostolat et du martyre, la société civile et politique se détraquait de plus en plus. Vainement, Dieu avait fait à la France du XIXe siècle les plus beaux dons, autant de génie, d'éloquence, de science, de gloire, qu'en aucune autre époque, comme un malade qui refuse le seul remède qui pourrait le guérir. Elle voyait son mal empirer chaque jour. Arrachée par une révolution utopiste et impie à sa vieille constitution nationale et chrétienne, fruit d'une expérience de 15 siècles, elle n'a pas pu depuis retrouver son assiette. Elle a tour à tour essayé l'Empire, la royauté constitutionnelle, la République. Elle est retournée à l'Empire. Elle est retombée en République, toujours agitée, inquiète, mal à l'aise, jusqu'à ce qu'enfin, lasse de toutes les constitutions, ne sachant laquelle choisir, elle a fini par essayer de dormir sur l'oreiller du provisoire, montrant ainsi au monde en sa personne la plus haute impuissance politique que l'histoire ait encore connue. En même temps, elle sent gronder dans son sein des passions bien autrement redoutables, ce qui se cachait honteusement dans les plis et replis des cœurs coupables, l'orgueil, l'envie, la convoitise du bien d'autrui. Refoulée jusque-là dans l'ombre par la puissance de la conscience chrétienne, se montre en public, s'associe, et devient une armée. Le canon de la guerre civile que l'on n'avait pas entendu en France depuis Henri IV, qui n'avait retenti ni au XVIIe, ni même au XVIIIe, commence à gronder au XIXe. 3 jours d'abord en 1830, à 2 reprises en 1848, pendant 6 semaines en 1870. À mesure que l'on avance, de 15 ans en 15 ans, la guerre fratricide prend de plus vastes et de plus odieuses proportions. Pendant ce temps, la France riche danse sur le volcan et en attise la flamme. Ses grands écrivains, Lamartine, Thiers, Michelet, Victor Hugo, glorifient Robespierre, innocente Marat, excusent l'échafaud de Louis XVI et y saluent même un grand acte patriotique. Ces savants emploient leur érudition, leurs découvertes et les ressources mêmes de l'État à établir qu'il n'y a point de Dieu, point d'âme, point d'esprit vivant et immortel, que tout se réduit à la vile matière, et que les idées de bien, de mal, de vice, de vertu, de liberté, de responsabilité sont de bons vieux mots dignes de tout mépris, ainsi que ceux qui nous les ont enseignés. Ces industriels, ces grands propriétaires, les directeurs de ces travaux publics ne négligent aucun moyen d'arracher Dieu et toute idée de religion au cœur de l'ouvrier, du travailleur, du pauvre. Excellent moyen de la rendre probe, honnête, chaste, et religieux observateurs des droits et du bien d'autrui. Ces poètes, ces romanciers, ces dramaturges travaillent jour et nuit à faire du théâtre un mauvais lieu. Ces grandes dames semblent regretter les jours heureux de Madame de Montespan, de Madame de Pompadour, de Madame du Barry, et n'ayant plus sous les yeux de si illustres modèles s'appliquent à imiter les allures, les costumes, la démarche, jusqu'au langage des personnes les plus méprisables. Les mœurs se corrompent, les esprits s'étiolent, les caractères s'affaissent, les santé se détraquent, la laideur physique et morale envahit tout. Et pendant ce temps, Nos graves hommes d'État ne sont occupés qu'à surveiller Dieu et la religion afin qu'ils ne prennent pas trop d'influence. Viennent donc les barbares, leur heure a sonné, qu'un coup de sifflet de la Providence les éveille dans leur sauvagerie savante, les arrache à leur lande stérile, qu'ils se lèvent et qu'ils infligent à la France coupable un exemplaire châtiment. L'histoire en parlera longtemps. Elle ne saura comment peindre la reine des nations, habituée à vaincre et toujours vaincue, se relevant 20 fois dans un héroïsme qui n'eût pas connu ses vainqueurs, et retombant 20 fois dans la poussière, tous les conseils renversés, les chefs paralysés ou éteints, les éléments se tournant contre nous pour mieux marquer d'où nous venait la défaite, et en 7 mois de lutte, la France ne retrouvant ni un éclair de son génie, ni un rayon de son bonheur. Et comme s'il fallait que tout soit extraordinaire dans cette nation, même ses malheurs au moment où s'achève cette épouvantable guerre, quand il faut poser l'épée, voici Paris qui s'embrase tout à coup de flammes fratricides, nos monuments, nos palais, nos bibliothèques, nos musées détruits par des mains françaises, des bandes de bêtes fauves à face humaine pillant à la lueur de l'incendie, profanant les églises, fusillant les évêques, les prêtres, les magistrats, les soldats, et sur les hauteurs voisines au Mont Valérien, à Vanves, à Saint-Denis, les Prussiens qui regardent avec leur longue vue et qui battent des mains en voyant brûler la grande ville qu'ils n'ont pas pu prendre. Voilà ce que contemplera d'abord l'histoire, et comme à la chute de Rome, elle y soupçonnera le doigt de Dieu. Mais bientôt, de cette scène d'une grandeur déjà si tragique, elle s'élèvera à un spectacle plus solennel encore et plus haut. Cette France vaincue, meurtrie, étendue sur 20 champs de bataille, elle la verra se diviser en 2 Frances. L'une, toujours pleine d'elle-même et frivole, qui cherche, dans les combinaisons de la politique, dans les récriminations et les condamnations, un remède à ses maux, ou du moins une consolation, la preuve qu'elle n'a pas été coupable. L'autre qui se frappe la poitrine, qui demande pardon, qui lève les yeux vers le ciel et qui, pour être plus sûr de conjurer les foudres qui sont dans les mains de Dieu, au lieu de baiser ses pieds et de les mouiller de larmes, monte hardiment jusqu'à son cœur. Chose mémorable, ce recours au cœur de Jésus qui, en 93, s'était présenté spontanément et, comme d'instinct à toutes les victimes, s'est présenté de lui-même aussi en 70 à tous les vaincus. Cette pensée, qui dormait depuis 60 ans dans le cœur de la France, s'est réveillée à la lueur sanglante de nos défaites sur tant de points à la fois et avec si peu d'entente qu'il est impossible de n'y pas sentir la main de Dieu. C'est le Père tendre et bon qui rappelle à un enfant malade la pensée du grand remède. Le premier fait que nous allons raconter suffirait à lui seul pour montrer la main miséricordieuse de Dieu. Dans les derniers mois de 1870, au moment où toutes nos armées régulières étaient détruites ou paralysées sous les murs de Metz et de Paris, on vit se lever sur 1000 points à la fois des bandes de volontaires. Ils avaient différents noms, différents fanions, mais qu'importait. L'heure des exclusions était passée. On faisait appel à tous les dévouements. Les zouaves pontificaux vinrent les premiers offrir leur épée à la France. Les Vendéens se levèrent sous les ordres de Catelineau. Les Bretons s'organisèrent en tirailleurs. Hors d'elles-mêmes, sans entente préalable, toutes ces différentes troupes mirent le cœur de Jésus sur leur poitrine. Celle-ci parce que c'était l'emblème que Pie IX avait béni et leur avait donné au moment de Mantana. Celle-là en souvenir de leur père, Henri de la Roche-Jacquelin. Lescure, Bonchamp, Charette, toutes en mémoire des consolantes et prophétiques révélations de Paray. La suite fit voir si le cœur de Jésus, placé sur un cœur de soldats et de Français, le fait battre moins vaillamment. À quelques jours de là, par une froide nuit, le 1er décembre 1870, 2 officiers supérieurs se dirigeaient vers Patay, où allait se jouer, le lendemain, la dernière partie de la France. L'un était le général de Senlis, commandant le 17e corps d'armée, l'autre le colonel de Charette, qui était à la tête des zouaves, tous deux profondément émus par la solennité de l'heure qu'ils traversaient et par l'évidente certitude que sans un secours éclatant de Dieu, c'en était fait de la France. Le froid était glacial et il devenait impossible de se tenir à cheval. Le général et le colonel mettent pied à terre et continuent leur route. Tout en marchant, le général exprime à M. de Charette le regret de ne point voir sur son fanion un emblème religieux plus caractéristique. « Mon général, reprend le colonel, je puis vous offrir ce que vous souhaitez. » Et alors il raconte au général que, le jour même où il avait reçu du gouvernement français l'autorisation de combattre avec les zouaves à la condition qu'il prendrait le nom de volontaire de l'Ouest, un drapeau sur lequel était peint le Sacré-Cœur lui était arrivé de loin avec cette adresse. en défenseur de l'Ouest. Il avait su plus tard que ce drapeau avait été brodé à Paray par les religieuses et envoyé à Tours à M. Dupont avec le désir qu'il parut sur les champs de bataille. Le général de Senlis vit là comme une inspiration de Dieu et la bannière du Sacré-Cœur fut adoptée aussitôt pour être l'oriflamme des Zouaves. Seulement, pour ne créer aucune difficulté, il fut décidé qu'on ne la déploierait qu'au moment où elle pourrait recevoir le baptême du feu, afin que la France ne la vît quand elle aurait été teinte et, pour ainsi dire, sacrée par le sang français. On était sûr qu'après la bataille, cette bannière, victorieuse ou vaincue, se serait conduite de telle sorte qu'elle ne passerait pas devant une armée française sans faire incliner toutes les épées. Le lendemain, 2 décembre 1870, premier vendredi du mois, jour consacré au Sacré-Cœur, la messe est célébrée dès les 3 heures du matin. Le général de Senlis, le colonel de Charette, la plupart des officiers, un grand nombre de soldats s'approchent de la Sainte Table pour apprendre du cœur de Jésus à souffrir et à s'immoler. La bataille s'engage aussitôt, et malgré la disproportion des deux armées, reste indécise jusqu'à 2h30 du soir. Mais alors, les renforts ennemis se succédant sans relâche, on entrevoit le moment où, à moins d'un effort héroïque et heureux, il faudra songer à la retraite. Le général de Senlis prend sa résolution. Il ramasse une colonne d'attaque et essaye de la lancer contre le village de Loigny. Deux régiments se couchent par terre et refusent d'avancer. Le général n'hésite plus. Il court aux Zouaves. « Messieurs, voilà l'heure de montrer ce que savent faire des Français et des chrétiens. En avant !» Un cri d'enthousiasme lui répond. Le sergent Henri de Vertamont s'élance à 50 pas à la tête du bataillon et déploie l'étendard du Sacré-Cœur. Tous se précipitent au cri de « Vive Pie-IX, vive la France !» Il fallait franchir un assez long espace de terrain sous une épouvantable mousqueterie. Les Zouaves le traversent, calme et en bon ordre, sans tirer un coup de fusil. Arrivés en face du petit bois, ils ouvrent le feu, s'élancent à la baïonnette, fouillent le bois, chassent les Allemands, arrivent au village et plantent le drapeau du Sacré-Cœur sur la position, au milieu d'un nuage de poudre qui l'enveloppe comme un nuage d'encens. Mais là, l'ennemi s'aperçoit de leur petit nombre. Il se remet de sa surprise, appelle sa réserve, masse ses rangs. Après avoir étonné les Prussiens par leur élan, c'est l'heure pour les Zouaves de les étonner par leur héroïsme. Le général de Senlis, Charette, Troussure tombent à côté de la bannière du Sacré-Cœur qui devient la cible des projectiles. Vertamont, qui la tient, meurt en l'empourprant de son sang. Le comte de Bouillé ramasse aussitôt le drapeau et, frappé à mort, le passe à son fils, le comte Jacques de Bouillé, qui, après l'avoir tenu quelque temps, succombe à son tour. Le Parement, qui lui succède, a la main brisée et le remet au sergent Landau, qui le garde tout teint de sang et troué en plusieurs endroits. La plupart des Zouaves sont renversés ou vont l'être. Ils tombent dans le cœur de Jésus, jetant sur ce champ de bataille un rayon de pure gloire qui rappelle le temps des croisades. Le surlendemain, Orléans était emporté, et le reste des Zouaves allait se faire hacher au Mans pour couvrir la bataille, la retraite de Chanzy. 5 mois plus tard, Paris se rendait. La guerre était finie et les Zouaves licenciés. Mais avant de se séparer, ils voulurent, en prenant congé de leur drapeau, lui décerner une suprême ovation et accomplir un acte dont les événements qui venaient de se passer leur avaient donné la pensée. Ils se réunirent donc à Rennes, dans une église. Là, pendant le Saint Sacrifice, au moment de la Sainte Communion, le drapeau du Sacré-Cœur fait son entrée solennelle et vient se placer au pied de l'autel. Monsieur de Charette, devenu général, et ses officiers se groupent autour de lui. L'aumônier en chef, Monseigneur d'Allienne, lit à genoux un acte de consécration au cœur de Jésus, rédigé et envoyé par le général de Senlis, retenu au loin par les suites de sa blessure. Puis le général de Charette prononce d'une voix vibrante les paroles suivantes. À l'ombre de ce drapeau, teint du sang de nos plus chères victimes, moi, général baron de Charette, qui ai l'insigne honneur de vous commander, je consacre la Légion des volontaires de l'Ouest, les Zouaves pontificaux, au Sacré-Cœur de Jésus. Et avec ma foi de soldat, je dis de toute mon âme et je vous demande de dire tous avec moi, cœur de Jésus, sauvez la France. Un cri unanime, spontané, formidable, lui répondit, cœur de Jésus, sauvez la France. Ainsi s'acheva cet épisode héroïque de nos tristes guerres. C'était la seconde fois depuis l'oriflamme des croisades qu'un drapeau religieux paraissait sur un champ de bataille. Le premier avait été porté par Jeanne d'Arc, le second le fut par les Zouaves. Pendant que de telles choses se passaient sur les champs de bataille et que s'accomplissait d'une manière si merveilleuse et en même temps si peu prévue la parole de notre Seigneur à la Bienheureuse, je veux que l'image de mon cœur soit gravée sur les étendards de la France, une autre parole de notre Seigneur se réalisait d'une manière encore plus inattendue. De pieux et éminents laïcs exilés de Paris s'entretenaient des malheurs de la France et cherchaient par quels moyens on pourrait y mettre un terme. Tout à coup, l'inspiration leur vint de faire le vœu solennel de construire un jour au centre de Paris une église consacrée au cœur de Jésus. Ils en rédigèrent aussitôt l'acte et dans cet acte on lit ces paroles. En présence des malheurs qui désolent la France et des malheurs plus grands peut-être qui la menacent encore. En présence des attentats sacrilèges commis à Rome contre les droits de l'Église et du Saint-Siège et contre la personne sacrée du vicaire de Jésus-Christ, pour faire amende honorable de nos péchés, pour en recevoir le pardon par l'intervention miséricordieuse du cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ et obtenir, par la même intervention, les secours extraordinaires qui seuls peuvent délivrer le souverain pontife de sa captivité, faire cesser les malheurs de la France et amener sa rénovation religieuse et sociale, nous promettons, lorsque ces grâces nous auront été accordées, de contribuer selon nos moyens à l'érection à Paris d'une église consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, érection qui sera demandée à l'autorité ecclésiastique compétente. Les signataires de cet acte pensaient-ils à la révélation faite à la Bienheureuse ? Pas plus peut-être que les Vendéens sur les champs de bataille ou les volontaires de l'Ouest à Pathé, mais quelqu'un y pensait pour eux. La guerre finie, ils n'oublièrent pas leurs vœux. Et leur premier acte fut de s'adresser à l'archevêque de Paris pour lui soumettre le projet qu'ils avaient conçu et lui demander sa bénédiction pour l'accomplir. Le siège de Saint-Denis était occupé alors par Mgr Guibert, qui venait d'y remplacer l'illustre victime de la Commune, Mgr Darbois. Le prélat, dans son intelligence et dans sa piété, comprit la grandeur chrétienne d'une telle pensée. Et non content d'accorder l'autorisation qu'on lui demandait, il résolut de consacrer à sa réalisation son autorité, sa haute position et son influence ainsi que tout son cœur. En conséquence, il s'adressa à tous les évêques de France et les pria de lui venir en aide. L'œuvre prenait déjà d'elle-même des proportions nouvelles. Ce qui ne devait être dans l'origine qu'une chapelle, une petite église, émanée de l'initiative de quelques-uns, allait devenir une église nationale, construite avec l'argent, le concours et le cœur de la France tout entière. Restait à en chercher l'emplacement. Or, quand on regarde le plan de Paris, on aperçoit au septentrion une montagne célèbre non seulement par les trésors géologiques qu'elle renferme dans ses flancs et qui font de sa composition mystérieuse au milieu de ce vaste bassin de la Seine une merveille inexplicable encore à la science, mais célèbre surtout parce que depuis les âges les plus reculés, elle a toujours été un lieu saint. C'est là que Saint-Denis, venant évangéliser les Gaules, rencontra les idoles les plus fameuses et les brisa. C'est là qu'il succomba sous la rage des païens, consacrant et transfigurant cette montagne par son sang. C'est là que, sur le lieu même de son supplice, s'éleva cette illustre église, bâtie et rebâtie d'âge en âge, consacrée au XIIIe siècle par Innocent III, et l'on a vu venir en pèlerinage tout ce que Paris a jamais possédé d'hommes éminents par la sainteté. C'est là que Saint Ignace et ses compagnons jetèrent les fondements de la Compagnie de Jésus. C'est là que se rencontrèrent, dans la même foi et les mêmes souvenirs, le cardinal de Bérulle, M. Ollier, le père de Condrenne, Bossuet, Saint Vincent de Paul. Montmartre est le lieu sacré de Paris. Le peuple qui garde mieux que les grands les traditions des saintes choses n'a jamais cessé d'aimer et de visiter Montmartre. Nul emplacement ne pouvait donc mieux convenir. Et, s'enhardissant à mesure qu'on avançait, on résolut de bâtir sur cette montagne d'où l'on domine la grande cité un temple qui, par l'immensité de ses proportions, la beauté de ses grandes lignes, la splendeur et la richesse de ses ornements, fut vraiment un temple national consacré par la France tout entière au cœur de Jésus. Dignum polenti pectore carmen, condere pro rerum majestate. Et afin de bien marquer de quelle inspiration il était né, on décida qu'on graverait sur le frontispice ces paroles, Sacratissimo Cordi Christi Jesu, Gallia Penitens et Devota. Pour réaliser une aussi gigantesque entreprise, il fallait exproprier un certain nombre de maisons qui occupaient le sommet de la montagne. La question se trouva ainsi amenée d'elle-même devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, puisque la France était en République, devant le souverain. C'était une occasion que la bonté de Dieu offrait à la France d'accomplir ce que Louis XIV n'avait pas fait, mais ce que Louis XVI, éclairé par le malheur, avait promis à Dieu dans sa prison. Du moins, si l'Assemblée nationale laissa échapper cette providentielle occasion, elle fit un acte considérable et qui lui sera un éternel honneur. Elle vota l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est-à-dire qu'elle déclara qu'il y avait utilité publique à ce que la France repentante élevât un temple au Sacré-Cœur. Cette église n'étant pas demandée à titre de paroisse ni exigée par les besoins du culte, le vote de l'Assemblée ne pouvait avoir que ce sens, ainsi que le firent remarquer les adversaires du projet. La France l'entendit de cette manière, et l'idée de cette église nationale au sommet de Montmartre, idée populaire dès le premier jour et bénie aussitôt par le souverain pontife Pie IX, prit un élan nouveau. Des souscriptions s'ouvrirent dans tous les diocèses. Des comités se formèrent pour exciter et entretenir le zèle, et bientôt des initiatives intelligentes et délicates se firent jour. L'armée demanda à construire et à décorer à ses frais une chapelle. Les ouvriers peu après s'offrirent aussi à en bâtir une qui serait consacrée à Jésus ouvrier. Ce mouvement se continuera. Les mères chrétiennes voudront en élever une à Sainte Monique. Les enfants auront aussi la leur consacrée à Jésus enfant. Les prêtres en dédieront une à Jésus prêtre, les évêques à Jésus pontife. Les vierges n'oublieront pas leur divin époux. Et le temple, bâti avec l'or et l'argent de la France, sera peuplé des inspirations les plus suaves de sa piété et de son cœur. Qui en fera la consécration solennelle? Nul ne le sait. On peut seulement s'attendre à ce que d'ici là, Dieu descendra dans le chantier et se fera reconnaître à des coups qu'on n'eût pas attendus. Il l'a dit à la Bienheureuse, « Je veux qu'un temple soit dédié à mon divin cœur. » Il aidera à le bâtir, à la bâtisse, et comme il est dit de plusieurs de nos vieilles cathédrales qu'au jour de leur consécration, on entendit des voix angéliques qui remplissaient l'air des chants les plus suaves, on peut croire que ce jour-là, sur la France agenouillée, descendront des paroles célestes, les paroles de l'amour et du pardon. C'est dans ce temple que sera faite par la bouche de son souverain, quel qu'il soit à cette époque, la consécration de la France au divin cœur de Jésus. Ce jour sera grand dans notre histoire. L'antique alliance sera renouée et Dieu redeviendra le Dieu des Francs. On aurait pu croire que les actes que nous venons de raconter, l'apparition de la bannière du Sacré-Cœur sur nos champs de bataille et la construction à Paris d'une église nationale au cœur de Jésus, que ces deux actes si extraordinaires ne seraient pas surpassés. Ils le furent cependant. Et le mois de juin 1873 fut témoin d'un fait qui, soit qu'on examine le temps où il a apparu, la manière dont il s'est accompli, les proportions gigantesques qu'il a revêtues à l'aspect d'un miracle. Déjà un peu après la fin de la guerre, au lendemain des horreurs de la Commune, vers l'automne 71 et pendant l'année 72, on avait senti passer sur la France un souffle inaccoutumé. Les sanctuaires célèbres étaient de plus en plus fréquentés. Les pèlerinages commençaient, timides d'abord, comme ces premiers souffles qui annonçaient la tempête. Elle se leva en 1873, cette tempête de la prière, du repentir et de l'amour. Toute la France catholique s'agita, emportée par un élan que, depuis 6 siècles, elle ne se connaissait plus. Il y eut des pèlerinages nationaux à Lourdes, à la Salette, à Chartres, à Fourvière, à Pontmain, au Puy. La France s'y précipita, suppliante. Lourdes, en une journée, vit s'agenouiller 100 000 hommes. Il y eut ensuite des pèlerinages locaux. Chaque diocèse eut le sien, où l'on voyait quelquefois jusqu'à 30 000 pèlerins. Si on avait la statistique exacte de tous les pèlerinages de 1873, on en serait étonné. Entre tous ces pèlerinages, celui de Paris eut un rang à part. On avait estimé qu'un jour suffisait à tous les autres. On prit un mois pour celui de Paris, où l'on sentait que la France tout entière allait venir. Marseille, la ville du Sacré-Cœur, ouvrit la marche et parut la première. Puis tous les jours, 2, 3, 4, 5 diocèses arrivaient. Bannière déployée. Le 20 juin, vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, il y eut 25 000 hommes. Le mois ne suffit même pas à cette procession qui se renouvelait chaque jour. Il fallut le prolonger jusqu'à la fin de juillet. Puis quand le flot des Français commença à diminuer, arrivèrent des pèlerins anglais, hollandais, belges, et ceux qui ne pouvaient pas venir encore, les Américains, les Anglais, les Polonais, les Irlandais, envoyaient leurs bannières pour les représenter. L'aimante invisible et jusque-là cachée dans le secret du monastère avait été mis au grand jour. Il attirait tous les cœurs. Des centaines de bannières, de chœurs, d'ex-voto, de lettres nous sont adressées de tous les coins de la France, écrivent les religieuses de Paray. Toutes les paroisses, toutes les communautés, tous les établissements, tant soit peu religieux de la capitale, envoient leurs souvenirs. C'est un rassemblement inouï. Nous avions cru pouvoir prendre note des ex-voto, mais au bout de 3 jours, nous comprenions que ce compte était impossible. Notre grille de cœur ne suffisait pas pour les suspendre, et on en trouvait partout. Toutes ces manifestations peuvent se résumer par ce mot inscrit des milliers de fois sur les ex-voto : la France au sacré cœur de Jésus. Mais ce n'était pas seulement le temps, la durée, la quantité de personnes dont il se composa qui donnait à ce pèlerinage le caractère d'un miracle. La manière dont il se fit n'est pas moins surprenante. Elle fut la même partout, et elle tranche tellement avec les habitudes françaises qu'on se demande comment elle put s'établir si spontanément et si unanimement. On partait d'une église et on se rendait en procession à la gare. Là, les pèlerins arboraient et plaçaient sur leur poitrine l'image du cœur de Jésus. Puis, au premier coup de sifflet, les chants commençaient. Chaque siècle a presque toujours créé pour exprimer sa pensée, pour donner une âme à l'émotion qui le soulève un chant populaire. Qui en est l'auteur? D'où vient-il? Qui l'a posé un jour, fier ou terrible, sur les lèvres des foules? Ni la Grèce au temps de Tyrté, ni nos ancêtres, les vieux Gaulois dans leurs forêts, ni la France à l'époque de ces grandes crises ne le saurait dire. Personne ne l'a écrit, tout le monde le chante. Il est sorti de l'âme du peuple. Ainsi de cet hymne qui retentit alors pour la première fois, ardente et triste, suppliante et tendre, touchant avec des larmes toutes les douleurs de l'Église de France, et poussant à chaque refrain un cri d'espérance et de pardon. Bien différent de ces clameurs sauvages des peuples en révolution, il fait appel aux tendresses du ciel et non aux colères de la terre. Au lieu de surexciter les âmes dans la haine, il les apaise dans le repentir. Pendant le voyage, nous chantions dans chaque wagon, livrant nos âmes à une sorte de joie pieuse et recueillie, comme si nous avions été dans une chapelle isolée. Mais le train ralentissait-il sa marche, on entendait ce chant sortir de chaque wagon. C'était quelque chose de si inusité et de si doux que les larmes venaient aux yeux. Il arrivait quelquefois à 2 trains de se rencontrer à une même station. On se mettait aux portières et les 2 wagons chantaient en chœur. Je n'oublierai jamais l'émotion dont je fus rempli à une station où notre train était arrêté pour laisser passer 2 trains spéciaux qui arrivaient de Paris. L'un de ces trains, en passant comme la foudre, nous jeta ces vers du cantique. « Pitié, mon Dieu, sur un nouveau calvaire, gémit le chef de votre église en pleurs. » En un instant, nous fûmes debout, avec un cri spontané unanime, « Vive Pie IX, vive la France !» Le matin de la grande fête, 20 juin 1873, le soleil se leva splendide. Pendant tout le mois, du reste, pas un seul jour, les processions ne furent arrêtées par la pluie. On avait dit autrefois « le soleil d'Austerlitz ». On disait maintenant « le soleil du Sacré-Cœur ». À mesure que nous approchions de Paray, les gares prenaient des aspects inaccoutumés. Des foules de pèlerins s'y pressaient longtemps avant l'heure. Des prêtres, des religieuses, des essaims de jeunes filles vêtues de blanc, gais comme des oiseaux, portant le cœur de Jésus sur leur poitrine. Des voitures de toutes les formes, grands équipages et charrettes chargées et surchargées du monde, arrivant au triple galop pour ne pas manquer une place qu'on savait devoir être difficile à trouver. Au milieu de cela, un calme, une sérénité joyeuse. Des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes filles, tous préparés à s'approcher de la Sainte Table et conservant, même dans leur empressement et au milieu de l'étonnement d'une scène si inaccoutumée, le recueillement qui précède toujours chez les chrétiens un tel acte. Ce sont là de ces spectacles que la France ne voit pas assez souvent, car sa nature profondément religieuse, son cœur sympathique à tout ce qui est élevé et sincère, n'y résisterait pas. Rien n'égalera de longtemps sous ce rapport la journée du 20 juin à Paray. C'était le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement. Le jour même dont notre Seigneur avait dit à son humble amante « Je veux que le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête solennelle en l'honneur de mon divin cœur. » Depuis minuit, des messes se disaient sur tous les autels. On en avait dressé de tous côtés. Il ne suffisait pas. Ce fut le seul regret de la journée. Il aurait fallu 100 autels de plus. Dans la chapelle de la Visitation, entre l'autel où notre Seigneur lui avait apparu et la grille derrière laquelle elle était agenouillée, reposait la Bienheureuse. Sa châsse splendide avait été élevée sur un trône entouré d'une forêt de lumière, couvert de cœurs, de couronnes, de suppliques, d'ex-voto de toutes sortes. à la tête du trône, comme la bannière de Jeanne d'Arc, qui, après avoir été à la peine, fut un jour à l'honneur et ombragea de ses plis l'autel du sacre. On voyait la bannière des Zouaves, trouée par les balles prussiennes et teintée de sang. Elle flottait au-dessus de la châsse. Les fidèles la baisaient en passant. Des mères en approchaient leurs petits-enfants. Et j'ai vu des soldats lui faire toucher leur épée nue. À 9 heures, la procession se mit en marche. Ce n'était plus cette procession brillante, triomphale, mais officielle et liturgique que j'avais admirée en 1865 lors des fêtes de la béatification. Il n'y avait ni cardinaux, ni évêques, ni abbés mitrés. Le clergé était mêlé au peuple. Les chants liturgiques avaient fait place à un seul chant, un chant français qui revenait sans cesse sur les lèvres. « Sauver Rome et la France au nom du Sacré-Cœur ». J'oserais dire que ce n'était pas la procession de l'Église, c'était la procession de la France humiliée, repentante, se frappant la poitrine et criant « Pitié, mon Dieu ». Chaque diocèse marchait sous sa bannière, ou plutôt chaque paroisse, chaque institution, chaque collège, chaque communauté. Car il y avait plus de 300 bannières, plus riches les unes que les autres, variées d'aspects, symboliques et éloquentes, jetant sur leur passage une foule de mots, de légendes, qui perçaient l'âme d'un trait. Le peuple les acclamait au passage, et ses cris d'enthousiasme, de joie, de douleur se mêlant aux cantiques de ceux qui faisaient cortège à la bannière, produisaient dans l'âme une impression indéfinissable. Un épisode inattendu vint. Dès les premiers pas, soulever et attendrir la foule. Déjà, quelques bannières avaient passé se dirigeant vers une petite colline qui domine la ville, et où l'on avait élevé un autel pour dire la messe en plein air, quand tout à coup, par une rue transversale, arriva un groupe un peu en retard et venant prendre sa place dans le cortège. C'était la bannière de l'Alsace, toute blanche, mais enveloppée d'un grand crêpe. Les cordons étaient portés d'un côté par un simple soldat, amputé et décoré, un crêpe au bras, de l'autre par une noble dame vêtue de noir, enveloppée d'un voile en grand deuil. Sur la bannière, on lisait « Cœur de Jésus, rendez-nous notre patrie ». Qui pourrait résister à un pareil spectacle? La procession s'arrête, les chants cessent. Les Alsaciens crient « Vive la France !» Nous crions « Vive l'Alsace !» Nous nous embrassons. Nous mêlons nos larmes. 8 jours après, l'émotion était encore si vive en ceux qui avaient été témoins de ce fait qu'on n'en pouvait parler sans sentir les larmes remonter aux yeux. Quelques instants après, j'entendis des cris, un immense frémissement. C'était la bannière de Metz. Celle-là était toute noire, comme pour attester un désespoir encore plus profond. Metz, la cité vierge, la ville toute française. Ah, que de larmes ont coulé sur son passage. Et comment croire que des prières si élevées et si poignantes ne seront pas entendues de celui qui a fait les nations guérissables. Après la bannière de Metz, celle qui m'émut le plus, ce fut la bannière de Paris. Autour d'elle était groupée la noblesse française, dans ce qui en reste de plus antique et de plus illustre. Toutes ces nobles dames avaient adopté le même costume, une robe noire et un voile. Je me les nommais à moi-même, et retrouvant là les noms les plus fameux de notre histoire, ceux qui furent la gloire et quelquefois, hélas, le péril du XVIIe et du XVIIIe siècle, je me disais « Voilà l'amende honorable qui commence ». Après l'expiation sur les échafauds, voilà qui vaut mieux le repentir et le recours au Sacré-Cœur. Je fus tiré de ces réflexions par des chants pleins de la plus mâle ardeur. C'étaient les zouaves pontificaux. Par prudence, on avait laissé la bannière de Patay auprès de la Sainte Chasse. On n'en avait là qu'un fac-simile. Le général de Saunis tenait un des cordons, le général de Charette l'autre. Tous les officiers suivaient. On sentait dans leurs chants quelque chose de l'enthousiasme avec lequel ils s'étaient battus à Loigny. Il aurait fallu un cœur de pierre pour ne pas tressaillir devant un tel spectacle. Aussi, surtout le passage, on entendait 1000 cris. « Vive Charette, vive Saunis, vive les Zouaves, vive la France, vive Pinaf !» Ou plutôt, on n'en entendait qu'un, car tous ces cris signifiaient au fond la même chose. Un incident inattendu vint porter l'émotion à son comble. La procession défilait le soir à travers le jardin du monastère. Or, au moment où l'on passait devant le petit bosquet de noisetiers, où notre Seigneur avait apparu à la Bienheureuse et lui avait expliqué le mystère sanglant de la croix, La bannière de l'Alsace, couverte d'un crêpe, s'accrocha à une branche. On fit un effort pour la dégager, et à ce moment, un coup de vent emporta le crêpe. Chacun tressaillit, et il y eut des larmes de joie et d'espérance dans tous les yeux. « Je ne vous oublierai pas dans cette fête, noble bannière d'Orléans, que nous avions été si heureux d'apporter à ce pèlerinage comme on envoie à des amis tristes une parole de consolation et d'espoir. Elle portait sur un fond blanc d'une grande richesse une éclatante image de Jeanne d'Arc, serrant son épée sur son cœur dans cette noble position, à la fois si humble et si résolue, que lui a donnée une princesse royale. Quand le peuple l'apercevait, on se la montrait du doigt. Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, et les cris, et les ovations, et les enthousiasmes se succédaient. C'était la résurrection de la France que l'on saluait en acclamant cet étendard. Ainsi, à chaque pas que l'on faisait, se dessinait le vrai caractère de ce pèlerinage. Nous avions là, sous les yeux, la France mutilée, sanglante. On ne pouvait pas prier pour soi, on priait pour elle. On oubliait ses propres misères, on criait « Sauvez, sauvez la France par votre sacré cœur ». Une dernière cérémonie devait achever de mettre sur cette journée son vrai caractère. Quand le soleil se fut couché et que les premières ombres de la nuit descendirent sur la ville, les cierges bénis s'allumèrent et Paris vit passer une procession de 3 à 4 000 hommes portant des flambeaux et psalmodiant le miséréré. La cérémonie s'acheva à la chapelle au pied de l'autel du Sacré-Cœur, devant la châsse, par une amende honorable. Une profonde émotion remplissait les âmes. On se serrait les mains sans rien dire. Le cœur débordait. Le grand regret de la journée, tout le monde le sentait, c'était de n'y avoir aucun député, aucun représentant de cette Assemblée nationale qui était en ce moment le souverain de la France. Ils vinrent 9 jours après, le 29, fête de Saint-Pierre. Ils étaient en trop petit nombre. 150 seulement avaient donné leur nom, comme on le lisait sur leur magnifique bannière. Sacratissimo cordi Jesu et legatis ad nationalem Gallie quetum voierunt. Ce n'en était pas moins une grande et touchante manifestation. Arrivés à la gare, ils mettent le cœur de Jésus sur leur poitrine, déploient leur étendard, et au milieu des acclamations de la foule, arrivent à la chapelle de la Visitation, où ils reçoivent des mains de l'évêque le Dieu qui aime les Francs. À ce moment, une voix s'élève au nom de tous. « Très saint cœur de Jésus, nous venons nous consacrer à vous, nous et nos collègues, qui nous sont unis de sentiments. Nous vous demandons de nous pardonner tout le mal que nous avons commis, et de pardonner aussi à tous ceux qui vivent séparés de vous. Pour la plupart, pour la part que nous pouvons y prendre et dans la mesure qui nous appartient, nous vous consacrons aussi de toute la force de nos désirs la France, notre patrie bien-aimée avec toutes ses provinces, ses œuvres de foi et de charité. Nous vous demandons de régner sur elle par la toute-puissance de votre grâce et de votre saint amour. En nous-mêmes, pèlerins de votre sacré cœur, adorateurs et convives de votre grand sacrement, disciples très fidèles, du siège infaillible de Saint-Pierre, dont nous sommes heureux de célébrer aujourd'hui la fête, nous nous consacrons à votre service au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous demandant humblement la grâce d'être tout à vous, en ce monde et dans l'éternité. Ainsi soit-il. » Une profonde émotion faisait battre tous les cœurs pendant la lecture de cet acte. Ce n'était pas encore cette consécration de la France que la Bienheureuse a demandé, que la France seule peut faire et que Dieu attend. C'en était déjà le prélude et comme la pierre d'attente. Tel fut le pèlerinage de Paris. Et encore, pour compléter le tableau, faudrait-il en dire les fruits, raconter ses élans de foi et de piété, d'une naïveté et d'une grandeur qui rappelaient les meilleures époques de l'Église. Ces foules qui se disputaient les moindres reliques de la Bienheureuse, même les feuilles du bosquet de noisetiers, et jusqu'à la terre et aux pierres du jardin, ces nuits passées en prière devant la châsse, ces communions si innombrables que les autels n'y pouvaient plus suffire, que les bras des prêtres tombaient de fatigue et que les religieuses de Paris ne savaient plus comment se procurer assez d'hosties pour ces multitudes affamées de Jésus. Oui, le doigt de Dieu est ici. Qui pourrait le nier? Le cœur de Jésus nous régénère. Depuis nos affreux désastres, marqués d'un si haut caractère de châtiment, depuis les horreurs de la Commune, dont la torche a éclairé d'une lueur sinistre l'abîme, où se vont engloutir les restes de la France. Depuis le sang des otages accepté par Dieu comme une expiation, il y a une France nouvelle. C'est elle qui a déployé à Patay l'étendard du Sacré-Cœur. Elle qui a voté et qui va construire l'église du Sacré-Cœur à Paris. Elle qui pendant 2 mois s'est pressée au pied de l'autel où Jésus a dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Le miracle est là où il n'est nulle part. Il est aussi sublime qu'il était inattendu et le ravissement d'un tel spectacle est d'autant plus doux qu'il y a tout lieu de croire que ce n'est qu'un commencement. » Sous l'impression de ces différents événements, on vit naître peu après dans le peuple chrétien une pensée plus haute, c'était de profiter du 16 juin 1875 qui approchait et qui était le 2e anniversaire centenaire de la grande révélation du Sacré-Cœur, pour lui rendre le plus grand de tous les hommages en consacrant solennellement au cœur de Jésus l'Église catholique tout entière. Il est vrai qu'elle lui appartient déjà. Elle est sortie du cœur blessé de notre Seigneur et elle est animée par son amour. Mais de ce qu'une chose appartient à Dieu, s'ensuit-il qu'on ne puisse ajouter à l'honneur de cette consécration naturelle et nécessaire le mérite d'une libre et amoureuse consécration? Marie était pleine de grâce, consacrée à Dieu par le saint privilège de sa conception immaculée, consacrée une seconde fois par sa prédestination glorieuse à la maternité divine. Dira-t-on pour cela qu'elle n'avait plus le droit de se vouer à Dieu dans le temple? C'est ce que pensaient des milliers de fidèles et de prêtres, et plusieurs centaines d'évêques, qui de toutes les parties du monde firent monter au trône de Saint-Pierre l'expression de leur vif désir. Pie IX accueillit avec bonheur de tels vœux, mais soit que les temps fussent trop tristes pour les splendeurs nécessaires d'une telle consécration, soit qu'au contraire, Dieu voulut garder cette toute puissante supplication pour de plus grands malheurs, soit pour d'autres raisons, dont le souverain pontife seul est juge. Voici comment, dans sa sagesse, en accueillant ce vœu, il régla la manière dont il s'accomplirait. Par un décret, en date du 22 avril 1875, la Sacrée Congrégation des Rites adressa aux évêques du monde catholique une formule de consécration au cœur de Jésus que tous les fidèles, les prêtres, les évêques étaient invités à réciter, soit en commun, soit en particulier, le 16 juin de la présente année, qui est le jour où revient le second centenaire de la révélation faite par le Rédempteur lui-même à la Bienheureuse. Et ce fut en effet dans cette forme que s'accomplit avec une piété à la fois triste et joyeuse la consécration solennelle de l'Église tout entière au cœur de Jésus. Le pape, au fond de cette petite chapelle du Vatican, plus auguste dans son obscurité que la basilique même de Saint-Pierre, les évêques au centre de leur diocèse sur toute la surface du monde catholique, tous les prêtres au pied des saints autels, les religieux, les vierges dans leurs cloîtres, les pères et les mères de famille avec leurs enfants, tous d'un seul cœur, d'une même voix, se consacrant au cœur de Jésus. Voilà ce que le soleil vit ce jour-là et ce qui marquera cette journée du 16 juin 1875 d'un ineffaçable et doux éclat. Peut-être qu'un jour, quand les secrets de l'avenir seront dévoilés, on se retournera dans le passé et on saluera ce jour comme une de ces haltes que les chefs d'armée imposent à leurs soldats à la veille des grandes batailles et dont ils profitent pour les reposer, enflammer leur courage et les préparer à de nouveaux périls. En attendant, ô Vierge, continuez votre œuvre. C'est vous qui avez semé ces beaux germes. Faites-les mûrir aux rayons du Sacré-Cœur. Un jour, dans un de ses plus intimes entretiens, vous entendîtes notre Seigneur vous dire « Je te fais pour toujours l'héritière de tous les trésors de mon divin cœur. Jouissez-en à jamais, ô Vierge, mais n'en soyez pas trop avare. Et partagez-les avec nous. Et vous, ô Jésus, mettez votre cœur sur le cœur de la France. Vous savez de quels éléments il est fait. Pour être bon, il a besoin d'aimer. Quand l'enthousiasme le soulève, il est sublime. Ô divin enchanteur, ravissez-le par votre beauté. Percez-le de traits si vifs qu'il soit obligé de se rendre. Il a été si grand, ce peuple, quand l'amour le suspendait à vos pieds et à vos mains percées. Que serait-ce donc s'il montait jusqu'à votre cœur? Alors, tous nos maux seraient finis. On reverrait cette vieille France que l'Église a tant aimée, que l'Europe contemplait avec une noble jalousie, dont l'épée, le génie et le cœur étaient au service de toutes les bonnes causes, et qui, débarrassé enfin de l'effroyable poison qui la consume, reprendrait son rang à la tête des peuples pour le bonheur de tous. À la suite des fêtes par lesquelles Paray le Monial célébra en 1890 le second centenaire de la mort de Marguerite Marie à la Coque, les ferventes prières parties des monastères de la Visitation et les faveurs accordées par Dieu à l'intercession de la Bienheureuse amenèrent la reprise de son procès de canonisation. Le 6 janvier 1918, notre Saint-Père, le pape Benoît XV, approuva les deux miracles exigés par le droit canon et le 13 mai 1920, en présence de cardinaux, d'évêques et de fidèles qui venaient surtout de France, il promulgua avec le cérémonial grandiose du pontificat romain le décret qui faisait Marguerite Marie sainte.